France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Et merci de nous écouter, d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles et des événements à profiter, qu'on peut découvrir sur Paris et la région parisienne. Alors aujourd'hui, on va vous donner peut-être une idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Eh ben oui, on va vous donner envie de vivre une virée romantique dans l'un des quartiers de Paris où l'amour est roi ou reine depuis bien longtemps. Une visite guidée organisée par Cultival.fr, ça s'appelle Paris Côté Cœur, dans le Marais. Alors son histoire, ses lieux emblématiques, son passé, son présent, ses romances qui s'y sont déroulées là-bas, du côté du Marais. Eh bien, notre guide aujourd'hui, c'est Elisabeth Gavilan. Bonjour et bienvenue Elisabeth.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais avec plaisir. Alors pourquoi le Marais est-il l'un des quartiers les plus love de la capitale? Quelles sont les belles et grandes histoires d'amour qui y sont nées, les symboles amoureux qu'on le retrouve en suivant vos pas, Elisabeth, on va tout savoir. Je précise que vous êtes bien sûr guide pour ce fameux Cultival.fr qu'on reçoit régulièrement dans cette émission. Ce quartier n'a plus aucun secret pour vous maintenant, hein, je pense. Vous faites ça depuis longtemps d'ailleurs?
Ça fait déjà 4 ans, 4 ans et demi à peu près. Ouais.
Vous avez arpenté toute la rue du Marais ou presque, hein.
On va dire que 2 ans le Marais.
D'accord.
Mais bon, je suis une amoureuse dans l'art, dans l'âme.
Bah, ça tombe bien. On pourrait peut-être juste rappeler les limites de ce quartier, hein, et peut-être l'origine du nom d'ailleurs. Alors, on est dans le 3e, 4e arrondissement.
C'est ça.
On pourrait dire qu'on va de Beaubourg jusqu'à Bastille.
Alors en fait, la visite, elle commence
mais le quartier,
à peu près.
Généralement, c'est ça. Voilà, il y a plein de petites rues piétonnes, d'autres où la circulation est bien difficile aussi parfois.
Oui, mais bon, c'est le charme du quartier.
Exactement. On peut passer devant l'hôtel de ville, on peut passer devant le BHV, bon, etc., etc. Ça s'appelle le Marais parce que c'était une ancienne zone marécageuse.
Exactement, c'était le deuxième bras de la Seine il y a très très longtemps et ça a été par la suite asséché. Et donc, c'est devenu donc le marécage.
Et alors ensuite, je crois que ça appartenait, c'était plutôt un quartier religieux, et c'est devenu un peu le quartier bourgeois de Paris pendant très longtemps, jusqu'à la Révolution française.
Jusqu'à la Révolution, c'est vraiment Henri IV qui va en faire l'emplacement en fait des hôtels particuliers.
Ouais, voilà. Mm. Et puis à la Révolution, ça change, parce qu'évidemment,
ils sont moins
là. Et puis là, c'est là que s'installent sans doute beaucoup de commerçants qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors, puisque l'on peut vous suivre dans ce beau quartier historique grâce à la visite Paris Côté Cœur proposée par Cultival, on va la faire cette visite, et vous la commencez précisément au jardin de l'hôtel de Sully. On est rue Saint-Antoine, et c'est aujourd'hui le centre des monuments nationaux. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là devant ce bel hôtel particulier, l'hôtel Sully, et son beau jardin qu'on voit de l'extérieur d'ailleurs?
Souvent c'est un endroit qui est pas connu. Souvent même dans ces visites qu'on propose chez Cultival, c'est souvent on fait découvrir des endroits qui sont pas forcément connus, même des Parisiens.
Oui,
même.
C'est vrai.
Donc on me donne l'occasion. C'était également un emplacement assez central.
Facile à
trouver. Exactement. Donc on utilise justement un petit passage secret pour tu peux la dérober pour aller place des Vosges justement.
Ah oui, parce qu'ensuite on va direction la fameuse place des Vosges et vous vous arrêtez à côté d'une fontaine. Pourquoi?
Alors cette histoire, ça s'est pas forcément passé place des Vosges, mais on essaye, c'est vrai que dans toute la visite, c'est pas forcément des choses qui se sont passées par-dessus, mais c'est vrai que ça nous rappelle une très belle histoire entre Henri IV, le jeune Henri IV, et son premier amour.
C'est-à-dire, racontez-nous cette histoire avant la Saint-Valentin, on va en profiter.
Alors c'est l'histoire de Fleurette. Donc
Fleurette.
C'est vrai que c'est pas du tout connu, hein. Pensez bien que Henri IV c'est quand même le vert galant.
Oui, il était disons assez volage.
73 maîtresses recensées.
Recensées.
Après je sais pas, j'ai pas pu réussir à trouver d'autres choses. Et c'est vrai que cette jeune femme, on n'en fait pas du tout mention dans l'histoire.
Ouais.
Et donc malheureusement, ne fait pas du tout mention dans l'histoire, mais elle a quand même conservé en nous une expression et un verbe. Alors l'histoire, c'est que Henri, donc il a à peine âgé de 16 ans, il va se trouver avec Charles IX pour faire le tour de France, non pas forcément en vélo, mais vraiment pour se faire connaître auprès du royaume. Et il va jouer énormément à des tournois d'arc. Et donc en fait, lors d'un tournoi, il découvre cette jeune femme dans la tribune.
Il craque.
Et donc là, en fait, il veut absolument savoir qui est cette jeune femme et on lui apprend que c'est la fille du jardinier qui s'appelle Fleurette.
Oh, c'est mignon déjà, la fille d'un jardinier. Oui, d'un
Exactement.
Jardinier qui s'appelait Fleurette, oui, c'est bien.
Donc du jour au lendemain, il se trouve une passion pour le jardinage. et donc, en fait, il va compter Fleurette avec elle.
Ah, voilà, d'où l'expression.
Exactement, on va lui conter des mots doux. Et finalement, voilà, c'est vraiment son premier amour. Et on a également le verbe fleureter, qui va donner fleurter.
Fleurter, bien sûr. Ah, tout ça à cause de cette fille de jardinier.
Exactement.
Bon, bah, merci Henri IV. Hein. Alors voilà, quand vous passerez du côté de la place des Vosges, vous pourrez penser à compter fleurette. C'est vrai que c'est un endroit assez romantique en plus.
Très romantique.
Très joli, c'est très beau. C'est là qu'a vécu également Victor Hugo.
Victor Hugo, oui.
Et plus récemment, bien évidemment, Annie Girardot, qui vivait dans ce coin de la place des Vosges. Troisième étape de votre visite, Elisabeth, c'est la rue de Sévigné et l'hôtel de Lamoignon, pour une histoire d'amour là aussi. Alors là, on n'est pas très loin d'ailleurs, rue de Sévigné, c'est vraiment à côté de la place des Vosges. Et c'est un bel hôtel particulier, l'hôtel Lamoignon. Vous arrêtez là, pourquoi ?
Alors je m'arrête là parce que dans cet hôtel a vécu Diane de France, qui était la fille d'Henri II.
Rien à voir avec Diane de Poitiers, si ?
Eh ben, en fait, il y a une relation, mais c'est pas forcément, n'est pas sa mère. En fait, c'est l'enfant qu'il a jamais pu avoir avec Diane de Poitiers.
Voilà,
donc, avec une autre maîtresse, il va appeler, en fait, son enfant Diane en hommage à sa maîtresse.
Et c'est pour ça que vous arrêtez là ?
On s'arrête là, et en fait, on parle de ce triangle amoureux.
Ah.
Enfin, c'est plutôt un amour à plusieurs, on va dire ça.
C'est-à-dire, alors, donc, il y avait,
Henri II.
Henri II.
Diane de Poitiers.
Ouais.
Et Catherine de Médicis.
Ah bah ça, c'était sa femme officielle.
C'est sa femme officielle.
Ah, d'accord. Bon bah voilà, une histoire d'amour à trois. Si vous passez devant l'hôtel de Lamoignon, on est rue de Sévigné, en plein cœur du Marais. On va continuer cette balade avec vous, Elisabeth, dans un instant. On ira découvrir une histoire d'amour, encore une fois liée à l'histoire, entre Henri II et... Ah bah non, ça y est, c'est fait, ça. C'est fait. Non. La suite, eh bien, ça sera du côté de... Bah vous le découvrirez dans un instant.
France Bleu, Paris.
France Bleu.
and Me, AA sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Vous le savez, demain c'est la fête des amoureux, alors aujourd'hui bah, nous on se promène dans l'un des quartiers où peut-être que demain les amoureux se donneront rendez-vous pour partager un dîner romantique ou une soirée bien festive. Ah bah oui, dans le Marais on peut tout faire. Le Marais et ses nombreux hôtels particuliers qui nous rappellent l'histoire de France, l'histoire de Paris. Et bien justement, je rappelle que nous sommes avec Elisabeth Gavilan qui est guide pour cultival.fr. Et là, Elisabeth, on se retrouve pour la suite de cette visite devant l'hôtel Carnavalet, hein, qui est carrément le musée de l'histoire de Paris, faut pas l'oublier, qui est un endroit absolument magnifique, où Henri II, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, on en a parlé à l'instant, une drôle d'histoire d'amour à trois, ça c'était tout à l'heure. Et puis, on doit à Catherine de Médicis, femme trompée et donc jalouse, le fait d'offrir des roses. Pourquoi ?
Alors, on parlait justement d'une femme trompée, mais c'est vrai que quand votre mari vous dit « je vais pas rentrer très tôt ce soir ».
Oui, parce que j'ai rendez-vous avec Diane de Poitiers.
Ou « je vais pas être là ce week-end ».
Parce que oui, d'accord.
Et qui revient avec un bouquet de 15 roses rouges.
Oui.
Il faut se poser des questions.
Et bon, qu'est-ce qu'il faut se dire ?
Le nombre de roses a son importance.
Ah bon ? Et pourquoi 15 ? Ça serait c'est embêtant.
Alors déjà, vous savez qu'il faut toujours offrir des fleurs en nombre impair, d'accord, jusqu'à 10.
Bah, c'est bien pour demain, hein. Écoutez, messieurs, mesdames.
Prenez note, messieurs, hein, surtout.
Oh, bah non, oui, bah, ça dépend, non.
Alors, une rose rouge, c'est l'amour au premier regard.
D'accord.
Trois roses rouges, c'est un je t'aime.
Ah, c'est bien ça, trois. C'est pas cher.
10, tu es parfaite.
Oh, bah oui, c'est un peu plus cher.
Et 15, c'est pardonne-moi, je suis désolée.
15, c'est pardonne. Ah, d'où effectivement ne jamais offrir 15 roses. Enfin, sauf si on a,
oui, un message vraiment
à se faire pardonner. Et là, ça ne va pas être facile avec 15 roses, je ne suis pas sûr.
Exactement.
Mais alors, pourquoi est-ce que c'est lié à l'histoire de Catherine de Médicis ? Pourquoi, d'où ça vient cette histoire ?
Alors, c'est juste vraiment la petite transition qu'on dit juste pour le côté.
C'est ça. Voilà, c'est parce qu'effectivement, j'ai compris.
Exactement.
Parce qu'elle, peut-être qu'effectivement, elle a dû recevoir
elle
un jour.
Elle a dû recevoir
15...
quelques roses, oui.
Alors, puisqu'on parle de roses, on va aller évidemment rue des Rosiers, on la connaît pendant très longtemps, cette rue existe depuis très longtemps, ça a été pendant très longtemps vraiment le quartier juif de Paris depuis le Moyen-Âge. Mmh. On en trouve encore heureusement quelques magasins pour déguster de bons Appelstrudels ou les Falafels, puis il y a quelques synagogues encore dans ce quartier. Et puis malheureusement c'est un quartier qui nous rappelle aussi un attentat en août 82. Elisabeth, dans cette rue animée, la rue des Rosiers, vous racontez quoi de particulier ?
Alors déjà on évoque qu'un premier rosier blanc serait apparu avec la naissance d'Aphrodite.
Ah, alors, il va falloir réviser un petit peu ces
clavigues.
Ouais.
Alors, Aphrodite, elle va nous suivre pendant toute la visite. C'est la déesse mythologique de la beauté et de l'amour. Et donc, quand elle est née, ce magnifique tableau de Botticelli, on la voit justement sortie d'un coquillage.
Ouais.
Et donc,
justement,
ce rosier blanc apparaît avec sa naissance. Et la rose blanche serait devenue rouge au contact du sang de Vénus, d'Aphrodite.
Ah bon ? Du sang ? Pourquoi ?
Parce qu'elle avait vu son amant Adonis mortellement blessé par un sanglier. Elle va courir pieds nus vers lui et elle va être coupée en fait par une épine d'une rose et de ce sang va faire de cette rose blanche une rose rouge.
Ah, d'où effet. Ah oui, d'accord. Donc encore un symbole comme ça lié à cet amour qui règne sur ce beau quartier. Et puis alors, dans toutes ces couleurs, on a parlé des couleurs tout à l'heure, on a parlé de la rose et tout. Quand on se promène dans le Marais, parfois on peut tomber sur les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont soit sur le sol, soit sur certains poteaux, soit sur certaines vitrines, soit sur certains drapeaux, parce que le Marais c'est aussi ça.
Exactement.
C'est ça correspond ?
Alors c'est vraiment l'amour entre un homme et un homme, ou une femme avec une femme. Donc on raconte vraiment cette histoire qui vient de Platon. Hein, du banquet de Platon.
Les couleurs de l'arc-en-ciel, pour la communauté, on va dire, gay, ça viendrait de Platon.
Alors en fait, c'est plus l'amour en soi qu'on évoque, le côté de cette quête de l'être cher qu'on va, on va avoir finalement dans toute notre vie. Et donc cet amour, si on est vraiment un homme avec un homme ou une femme avec une femme, ou même un homme avec une femme, l'important c'est vraiment de trouver
sa moitié idéale.
Sa moitié idéale. Et donc cette recherche de l'âme sœur se trouve dans Platon. Et donc c'est l'histoire justement qu'on évoque dans la visite.
Donc Platon, arc-en-ciel et le marais, tout ça, ça va en même temps.
Tout ça, c'est gay.
Voilà. Tout ça, c'est très très gay. On a parlé de fleurs, de roses. Qui dit rose dit bien sûr parfum. La suite de la visite de Côté Paris, Côté Cœur, pardon, c'est dans un instant avec Elisabeth. Rendez-vous devant la boutique de Marie-Antoinette et devant le restaurant La Favorite du Roi. Pourquoi ? Eh bien, vous le saurez dans la suite. Et la suite, c'est également accès privé, comme tous les jours. Muriel Jordan, notre reporter, poursuit elle sa découverte des secrets de fabrication de la bande originale du film Minuscule 2. Elle nous fait partager tout cela après ça.
France Bleu Paris. France Bleu.
Allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout.
Un point c'est tout, un point c'est tout, un point c'est tout.
Ça fait longtemps que j'aimerais partir de ce petit village qui m'a vu grandir. Je connais la route, les chemins, le moindre recoin. Y'a plus rien qui me retient, à part mon pote Lucien. On se connaît depuis l'époque, puis le bac à sable, la morvonne et les billes cachées dans le cartable. Dans la cour d'école, on les a rendus folles. Je compte même plus le temps passé en heure de colle. Bien sûr que j'ai fait pleurer ma mère, mon père, ma tante et ma grand-mère. Je suis comme je suis, un petit schnappant qui aime bien avoir la tête en l'air. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis plus d'humeur, je suis plus dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou.
Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout.
Un point c'est tout,
un point c'est tout,
un point c'est tout.
On a fait un groupe depuis 2-3 semaines avec les copains, on aimerait faire quelques scènes, mais bon pour l'instant y'a rien. On s'entraîne dans le garage, les voisins pour des fous nous prennent. Je veux connaître notre style, un mélange de pop, reggae, variété, avec une touche d'hip-hop. Hiver comme été, on n'est qu'une bande de potes. Et crois-moi, c'est sûr qu'on va marquer l'époque. Comprends que je ne peux pas rester planté là pour pousser, qu'il faut savoir se planter. Pour l'instant je te l'accorde, je n'ai qu'un plan A. Mais qui sait demain, j'aurai peut-être un plan B. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, non, je suis pas dans le coup, moi je veux juste partir, aller voir ailleurs. Je veux voir du pays, sortir de ce trou.
Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout.
Allez leur dire.
Allez leur dire,
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 allez leur dire.
On a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout.
Autant retenir son nom tout de suite, ce sera un tube. Allez leur dire, il s'appelle Sylvain Areg sur France Bleu Paris.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu.
Dans Paris Express, avec Déborah Grunewald, France Bleu Paris taquine les stars.
Oui ?
Oui, c'est Manu Payet.
Oh Manu, quelle bonne surprise !
Ça va ? Je me disais, bah voilà, je passe dans le coin, je vais faire le coucou à Déborah.
Ouais, non.
Faut que je parle d'un documentaire important en plus.
T'as bien fait de passer.
Ouais.
Manu Payet, avec Déborah Grunewald, dans Paris Express, sur France Bleu Paris, toute la semaine, à 6h55, 11h55 et 16h35. France Bleu, partenaire de la soirée continue Cancer du sein, la vie avant tout sur France 2. Ce soir, une fiction, Ma mère, le crabe et moi, à 21h avec Émilie Dequesne, suivie d'un débat animé par Julien Bugier. Des espoirs de guérison toujours meilleurs grâce au dépistage et à des thérapies adaptées. Mais quel accompagnement, quel soutien au quotidien dans la vie professionnelle et familiale. Cancer du sein, la vie avant tout, soirée continue sur France 2, un programme à découvrir dans vos chroniques télé et des infos exclusives sur francebleu.fr. Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Duperret.
Un secret ? Oh, c'est juste que je suis bien dans ma peau, grâce à mon nouveau soin Nivea Vital Confort et Nutrition. Fini la peau sèche. Ma peau est bien nourrie, confortable et moi, je profite de la vie.
Découvrez le nouveau soin vital, confort et nutrition pour peau mature de Nivea. Et jusqu'au 31 mars, pour tout achat d'un produit Nivea Vital dans les magasins participants, jouez et tentez de gagner un vélo électrique. Règlement sur Nivea.fr.
France Bleu Paris.
Allez, dans un instant, on retrouve l'histoire du Marais, les histoires d'amour du Marais à Paris. Mais tout de suite, on poursuit la rencontre de Muriel Jourdan pour Accès Privé avec le compositeur du film Minuscule 2. On y était déjà hier. Il s'appelle Mathieu Lambollet. Alors maintenant, découvrez quelques secrets de fabrication de la fameuse bande originale de ce film Minuscule 2, actuellement au cinéma.
Alors voilà, je suis derrière le clavier aux côtés de Mathieu Lambollet. Mathieu Lambollet qui est donc le compositeur de la bande originale du film Minuscule 2, actuellement au cinéma. C'est vous le chef d'orchestre aussi, vous avez dirigé combien de personnes ?
Il y avait 92 musiciens, sans compter les chœurs et sans compter les... On a rajouté également des guitares, des percussions, enfin plein d'autres choses. Et généralement on enregistre en plusieurs fois, c'est-à-dire que là on a enregistré l'orchestre d'un côté, ensuite les chœurs, après des guitares, des percussions. Et voilà, ça fait pas mal de monde sur le projet effectivement.
Et tout ça est enregistré dans le nouveau studio d'enregistrement de l'Orchestre National d'Île-de-France à Alfortville. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Est-ce que vous vous souvenez d'une journée, d'une soirée où vous avez eu les gouttes de sueur là, sur votre front qui perlaient ? Vous vous êtes dit, oh là là, on va pas s'en sortir là.
Je crois qu'il m'est jamais arrivé de sortir d'une séance d'enregistrement en disant on l'a pas, on s'arrange toujours pour avoir le meilleur, mais en revanche c'est éprouvant physiquement effectivement. Quand on sort par exemple du déjeuner, on sent que les musiciens sont un peu fatigués et donc on commence et là on sent que ça le fait pas du tout. Il arrive aussi que disons que moi j'ai mon assistant qui est en cabine, donc qui entend en fait, qui lui prend des notes sur les prises, et parfois il me parle en façon personnelle et là il me dit bon alors là ça le fait pas du tout, hein, mais je sais pas comment on va faire. Et moi tout mon rôle est de dire à l'orchestre non, tout va bien, c'est bon. Et là quand on sent un petit peu une tension dans l'orchestre et qu'on refait 4 fois, 5 fois le même passage pour un instrumentiste, c'était délicat. Et moi j'avais en cabine, ça va pas le faire. Et donc on est obligé de rester très serein, nous. Bon, c'est des rapports humains et c'est ce qui est intéressant aussi dans ce métier là.
Donc c'est ici, alors ça ressemble évidemment à ce qu'on peut s'attendre chez un compositeur, c'est-à-dire il y a un clavier, il y a un ordi, il y a des enceintes et puis il y a ça et là des partoches qui sont éparpillées un peu partout, sachant que vous ne bossez pas ici.
Non, effectivement, j'ai l'habitude de travailler dans mon studio, qui est juste à côté, mais qui est actuellement en travaux. Donc là, je travaille chez moi. Vous avez oublié de parler du café.
Des litres de café, il vous faut. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose de créer une bande originale pour un film autour d'insectes, autour d'animaux, etc., comparé à un autre film?
Alors la différence essentielle, en tout cas là sur ce projet-là, c'est que c'est un film qui n'a pas de dialogue. Donc effectivement, la musique a une place beaucoup plus importante. Elle a un rôle narratif, à la différence d'autres films sur lesquels, dans la fiction, on avait beaucoup de dialogue, donc on accompagne différemment l'image. Après, ça change pas fondamentalement la composition en elle-même. C'est plus la place qu'elle va prendre. On va se permettre des choses peut-être un peu plus riches. Il faut que la musique, ce qui est compliqué dans la musique du film, c'est qu'il faut qu'elle soit à la fois intéressante, mais à la fois qu'il faut pas qu'elle prennent trop de place.
Et la scène dont vous êtes le plus fier, si vous deviez en choisir une, vous avez dit là on a vraiment réussi, je suis content.
Il y avait un thème un peu mélancolique qui correspond au thème de la petite coccinelle guadeloupéenne, un moment où, enfin je vais pas spoiler le film parce qu'il faut que les gens aillent le voir, et du coup j'ai développé un thème donc, qui est exposé deux fois dans le film, à la fois au piano et à la fois avec des chœurs, dont je suis assez fier, enfin, donc je peux vous le jouer si vous voulez.
Ben voilà, vous savez tout ou presque. On vous conseille d'ailleurs vivement d'aller voir le film Minuscule 2 au cinéma actuellement.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Midi 33, si vous nous rejoignez, donc c'est France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, on se balade dans l'histoire d'un des quartiers les plus romantiques de Paris, l'un des plus animés aussi, hein, le Marais, pour en savoir plus sur les romances célèbres qui ont jalonné son histoire. Nous sommes avec Elisabeth Gavilan, guide pour Cultival.fr, et cette balade s'appelle Paris Côté Cœur. Elisabeth, on a évoqué tout à l'heure la symbolique de la rose, les différents chiffres, enfin les différents nombres de roses qu'il faut offrir ou pas, les couleurs de l'arc-en-ciel. On va parler de parfum. Pourquoi, Elisabeth, nous emmenez-vous devant la boutique de Marie-Antoinette ? Alors là, on se trouve, place Sainte-Catherine. C'est une petite place dans le Marais, il faut la trouver. C'est très joli, il y a d'ailleurs un célèbre café-théâtre de la magie, le double fond qui se trouve là. Pourquoi est-ce que là, on s'est retrouvé, Elisabeth ?
En fait, dans l'amour, on offre des fleurs.
Oui.
On offre des chocolats.
Oui.
Qui est aussi aphrodisiaque, faites attention.
Oh, bah, j'ai pas de soucis. Hein. On peut dépasser la dose prescrite.
Oui, hein. Et c'est bien pour les migraines et tout. Hein.
Très bien.
Et en fait, on offre également des parfums.
C'est vrai.
Et le parfum, en fait, on se rend compte que, après bien longtemps, on mettait des essences animales.
Ah oui?
Alors aujourd'hui, c'est synthétique, hein, mais évidemment, ouais. Par exemple, le musc.
Oui.
Le musc, c'est une glande qui se trouve dans l'abdomen du chevrotin en période de rut.
Waouh! Et on en faisait du parfum, on en fait du parfum.
On en fait du parfum. Donc le but, c'est de retrouver dans l'odeur corporelle l'odeur qu'on a quand on fait l'amour.
Ah, oh là 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 là, ça va très très loin tout ça. Mmh. Eh oui, Paris côté cœur, on est bien d'accord. Mais elle existe vraiment, cette boutique de Marie-Antoinette ?
Oui, oui, elle existe vraiment.
Et donc c'est une boutique qui fait des parfums ?
Qui fait des parfums, vous pouvez également confectionner votre propre parfum.
D'accord, donc on aura compris pourquoi. Si demain vous n'avez pas d'idée de cadeau, là vraiment, on vous invite. Cette petite place, il faut la trouver, il faut vraiment y aller. C'est pas loin du métro Saint-Paul, je vous la recommande. On sort de cette petite place et on prend la direction de la rue de Rivoli. Nous voici devant le 6 rue de Rivoli. C'est un restaurant qui s'appelle La Favorite. Alors, pour évoquer un roi.
Alors, on évoque notamment la favorite du roi Louis XV, Madame Pompadour,
oui.
Qui avait décelé en fait énormément de recettes un peu aphrodisiaques. Donc, on reste un petit peu. On vous donne vraiment toutes les recettes pour pimenter votre couple.
Hein. Vous les avez, les recettes de la marquise de Pompadour?
Et bien sûr, testées. Hein.
Bien sûr, mais elle faisait vraiment ça.
Alors, par exemple, il y a le céleri. Le céleri, elle disait, si les femmes savaient ce que le céleri fait à l'homme, elles iraient le chercher de Paris à Rome.
Mais encore.
Alors, parce qu'on sait, dans les tiges du céleri, on a ce qui va développer en fait la testostérone et l'androstérone qu'on trouve dans la sueur.
Ah.
Donc vous avez le céleri, on va également avoir les asperges,
ouais.
Les fruits de mer,
ouais.
Le caviar, les Perses disaient que c'était le pain des amants.
D'accord.
Le chocolat, le gingembre, tout ça, voilà, c'est vraiment pour... Et le piment, parce que pimenter votre couple.
Exactement. Donc la marquise de Pompadour, elle connaissait toutes ses recettes.
Bien sûr.
Toujours pour évoquer un autre Louis, alors cette fois-ci c'est Louis XIV et son cœur, puisqu'on parle, quand on parle d'amour, on parle de cœur. C'était un amoureux, on traverse la rue de Rivoli. Nous voici devant l'église Saint-Paul-Saint-Louis, cette belle église, ce bel escalier qui mène là, qui est vraiment majestueux sur la rue de Rivoli. On passe devant, c'est pas loin du métro Saint-Paul également. Quel rapport avec l'histoire de cœur de Louis XIV ?
Alors là, on parle plutôt du cœur au premier degré. Donc imaginez que ce cœur qui a battu pour autant de femmes, parce que Louis XIV aussi aimait bien les femmes, mmh. Et ben il a été conservé avec le cœur de son père dans la crypte de l'église Saint-Paul-Saint-Louis jusqu'à la Révolution française.
Ah, je pensais qu'ils étaient tous à la basilique Saint-Denis.
Et vraiment, les cœurs ont été épargnés, enfin...
D'accord.
Épargné vraiment pendant la Révolution française. Pareil, on va les détruire. Mais il y a une légende qui affirme qu'on aurait récupéré ces cœurs et qu'on les a donnés en fait à des peintres qui auraient utilisé les cœurs des rois de France pour en faire des tableaux. Et donc le cœur reste immortel.
C'est une légende.
C'est une légende.
Donc le cœur, si j'ai bien compris, les cœurs de Louis XIV et Louis XV étaient là dans cette église Saint-Paul-Saint-Louis. Ça, c'est un fait historique.
Mm-hmm. Et de Louis XIII.
Et de Louis XIII, pardon. Et à la Révolution, on les a retrouvés après ou pas ?
Non.
Ah, d'accord.
Okay. Détruits vraiment sous la Révolution française.
Au fait, Elisabeth, on parle beaucoup d'histoire d'amour dans cette balade Paris côté cœur. Demain, c'est la Saint-Valentin. Pourquoi Saint-Valentin est-il associé aux amoureux ?
Alors Saint-Valentin, c'était... c'est vrai qu'on n'y pense pas, on pense toujours que c'est la fête commerciale, mais Saint-Valentin, c'est un prêtre martyr du 3e siècle après Jésus-Christ. Et il aurait été, notamment, c'était un prêtre qui allait marier en fait, des couples. Et Claude II, le cruel, qui était l'empereur à l'époque, avait interdit les mariages parce qu'il ne pouvait pas recruter des hommes qui étaient vraiment trop attachés à leur famille. Et donc notre prêtre Valentin continuait à marier ses couples. Et donc, quand l'empereur a su qu'il faisait ça, ben finalement, il va l'arrêter, il le condamner à mort. Et il est décapité un 14 février 269.
Ah, d'où le 14 février.
D'où le 14 février. Mais en plus de ça, on pense que les oiseaux commencent à faire leur nid à mi-février. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a associé les amoureux 14 février, Saint-Valentin.
Bon, ben voilà, on pensera à Saint-Valentin demain qui a eu la tête coupée à cause... de l'amour, finalement.
C'est ça.
Bon, on a parlé de Louis XIV, on a parlé de Louis XIII. Eh bien, on va continuer dans un instant. Comment Louis XIV a-t-il été initié à l'amour ? C'est une drôle d'histoire. Et dans la balade Paris côté cœur, pour le savoir, bah, grâce à Elisabeth, bah, il faut se déplacer. Il faut se déplacer vers l'hôtel de Beauvais. On est rue François Miron, toujours dans le 4e, toujours dans le Marais. Et vous en saurez plus dans 3 minutes.
France Bleu Paris.
France Bleu. are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever after? To be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled.
Elle s'appelle Pink, elle chantait What About Us sur France Bleu Paris. On retourne dans le Marais Paris côté cœur, juste après ça.
France Bleu,
la plus belle commune 2019, avec France Bleu Paris.
Vous avez élu Moret-sur-Loing, plus belle commune d'Île-de-France 2019. France Bleu Paris va donc s'installer sur place pour valoriser les personnalités, les atouts touristiques, les associations qui font le charme de cette commune en lisière de la forêt de Fontainebleau. France Bleu Paris en direct de la mairie de Moret-sur-Loing ce samedi 16 février dès 9h. Toutes les infos sur la plus belle commune d'Île-de-France 2019 sur francebleuparis.fr.
France Bleu présente Irish Celtic Spirit of Ireland. Soyez de la fête au pub mythique du Vieux Paddy qui raconte l'histoire et la culture de son pays. Irish Celtic, l'île d'émeraude et ses légendes. 2 heures de musique, d'émotions et de claquettes explosives. Irish Celtic, Spirit of Ireland. Au Casino de Paris, les samedis 16 et dimanche 17 mars. Puis en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu Paris.
Il est 1h15, se balader dans Paris, regarder les façades magnifiques du quartier du Marais par exemple, et se dire que parfois dans ces rues se sont nouées de belles relations qui sont devenues de belles histoires d'amour, ou pas d'ailleurs. C'est un peu ce que vous vivrez si vous suivez un jour Elisabeth Gavilan, guide pour Cultival.fr et la balade Paris côté cœur. Elisabeth, dans ce quartier du Marais, il y a plein d'hôtels particuliers bien sûr, et il y en a un qui est magnifique, l'hôtel de Beauvais, on est rue François Miron dans le 4e, ça a été édifié en 1655, propriété de Pierre de Beauvais. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête là, Elisabeth? Je crois que c'est pour évoquer Louis XIV.
Oui, alors c'est plutôt un hôtel très 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 particulier dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, on évoque notamment donc Pierre de Beauvais, vous l'avez dit, mais surtout Catherine de Beauvais.
Catherine de Beauvais.
Et Catherine de Beauvais était la femme de chambre d'Anne d'Autriche.
D'accord. Ça a un rapport avec Pierre de Beauvais?
C'était sa femme. Et donc, femme de chambre, également confidente d'Anne d'Autriche. Et elle va, la reine Anne d'Autriche va lui demander de lui rendre un service. Mm-hmm. Et ce service, c'est de déniaiser Louis XIV.
C'est de déniaiser Louis XIV, donc qui avait jamais fait crac-crac, quoi.
Exactement.
Et donc, elle dit oui.
Et ben, elle dit oui, en effet. Donc voilà, c'est une femme de confiance. Hein, et ça va durer 2 ans.
Ah, quand même. Ah oui, bah, c'était une jolie femme, alors.
Pas exactement, c'est-à-dire qu'Anne d'Autriche va faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que son fils en tombe amoureux de cette femme, parce que voilà, c'était une femme de chambre.
Ouais, hein. Ouais.
Et en fait, cette femme, on l'appelait Catherine la Borgnesse. Elle était borgne. Mais encore,
ça
va.
Ça a son charme, oui. Ça
mais elle était bossue. Elle boitait et elle était très laide.
Mais alors, il a commencé sa vie amoureuse comme ça, Louis XIV?
Oui, mais apparemment, ça lui a plu. Il en était ravi.
Mais est-ce que vous savez d'ailleurs, est-ce qu'on connaît l'âge de ce passage à l'acte?
Alors, lui, il avait entre à peu près 14 ans.
Ah oui, d'accord.
14 ans, ça dure là, entre 14 et 16 ans.
Donc, de 14 ans à 16 ans, il a eu comme, compagne.
Exactement, comme professeur.
Femme bossue, borgne et mariée. Bon, bah voilà, c'est une autre époque, hein, on va dire comme ça. Alors voilà, on parle également de Monsieur Philippe d'Orléans. Ça, c'était le frère de Louis XIV. Autre style, lui, il voyait l'amour sous d'autres cieux.
C'est ça. En fait, il faut vraiment comprendre si vous mettez dans le contexte, si Anne d'Autriche met en sorte que son Louis XIV apprenne la vie, c'est parce qu'elle a été très choquée par le comportement du frère de Louis XIII. Ils n'ont pas d'enfant pendant à peu près 23 ans, Anne d'Autriche et Louis XIII. Et donc, le Gaston d'Orléans, qui est monsieur, donc l'oncle de Louis XIV, veut absolument prendre le pouvoir. Mmh. Donc, quand Louis XIV commence un petit peu à se connaître lui-même, elle lui impose vraiment de connaître la vie avec Catherine de Beauvais.
D'accord, j'ai compris
et
ça.
Et elle ne veut pas du tout que le frère de Louis XIV prenne le pouvoir. Mmh. Donc elle va l'éduquer comme une fille.
Ah, d'accord.
Et donc c'est pour ça que les hommes lui plaisaient, et les hommes vraiment...
Pas vraiment parce qu'elle l'avait éduqué comme une fille, c'est qu'il devait avoir ça en lui quand même.
Peut-être.
Je crois qu'il était quand même assez... alors on ne va pas dire d'après les films, parce qu'il y en a... Ce ne sont que des films ou des séries, mais c'est vrai qu'a priori il était assez efféminé.
Très efféminé, oui.
Mais il était quand même marié alors.
Il était marié, alors il faut comprendre, vraiment, même si il a cette homosexualité, il a besoin vraiment d'avoir des enfants. Donc il va épouser d'abord sa cousine, Henriette d'Angleterre. Il va avoir 4 enfants.
Ah quand même, oui, ça marchait bien.
Oui, ça marchait bien. Bon. Elle meurt dans des circonstances un petit peu assez mystérieuses, âgée de 26 ans.
Ah mince.
Et Louis XIV lui demande de se remarier avec cette fois-ci la Palatine.
La Palatine, ah oui.
Palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, qui était assez garçon manqué.
Bon, bah voilà.
Et c'est vrai qu'on entendait dans les couloirs que madame est plus monsieur que monsieur n'est madame.
Mais ils ont quand même fait crac-crac?
Ils ont quand même fait. Alors la corvée conjugale, c'était pas évident. Hein. Donc, elle était vraiment une corvée. Et donc, ils ont quand même eu 3 enfants.
Ah oui, bah ça fait 7 enfants pour vous, très bien. Et il y arrivait tout seul?
Alors, c'est vrai que la Palatine était écrivait énormément, un petit peu comme Madame de Sévigné. Et elle s'était un petit peu, on l'appelait l'océan d'encre. Et elle va raconter un jour comment il s'y prenait. Un jour, elle va le découvrir dans le lit. Avec quelques prières, il utilisait une sorte de chapelet,
oui,
d'où pendait quelques médailles sur sa petite chose.
Ah. Et avec il avait une petite chose, donc.
Voilà, une petite chose, on va dire. Et puis avec quelques prières, il attendait que cela fonctionne.
Que ça remonte bien. Bon, bah voilà, vous en saurez plus en suivant cette balade un peu coquine, mais ça fait du bien. Vous terminez d'ailleurs cette balade dans ce que l'on appelle le village Saint-Paul. Dans ce quartier, on peut d'ailleurs admirer les vestiges de l'enceinte de Paris sous Philippe Auguste, pardon. On se retrouve donc dans ce quartier, c'est entre le métro Saint-Paul, Pont-Marie, Sully, Nathalie Morland. Pourquoi terminer cette balade ici?
Alors là, pareil, un petit peu comme l'hôtel de Sully, c'est une partie qui n'est pas du tout connue des Parisiens. Et c'est vraiment un havre de paix. Donc c'est vrai, quand on y ressort, on arrive dans la rue Saint-Antoine et ça nous choque parce c'est vraiment une petite parenthèse de bien-être. Et on finit dans le village Saint-Paul pour évoquer une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que c'est vrai que dans toute la visite, on évoque des amours célestes et des amours terrestres, mais souvent des histoires qui sont passées il y a quelques siècles. Et là, c'est une histoire qui se passe dans les années 80.
Allez-y, racontez-la.
Alors, vous avez un couple d'octogénaires qui vivaient dans ces deux villages Saint-Paul. Et ils s'étaient rencontrés avant le début de la Première Guerre mondiale. Ils étaient fiancés. Mais donc, ils avaient 17 et 16 ans. Et le monsieur est parti à la guerre. Et il recevait chaque jour une lettre de sa fiancée avec seulement deux phrases. La guerre se termine, il peut rentrer chez lui, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants et ils vont avoir la routine qui va commencer à s'installer. Mais ils étaient heureux. Tous les jours, vers 11h, elle partait dans la cuisine pour préparer à manger et lui restait assis sur son fauteuil pour lire le journal. Et un jour, l'homme entend un énorme bruit dans la cuisine. Il se précipite dans cette cuisine et il découvre sa femme par terre. Elle était tombée dans le coma. Il appelle vraiment tout l'ambulance, les médecins. Et au moment d'arriver vraiment à l'hôpital, les médecins lui disent « Non, à partir de là, vous ne pouvez pas passer. » Et lui, écoutez, je n'ai jamais laissé un seul instant ma femme. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais vraiment la quitter. Donc, sa détermination était si puissante que les médecins le laissent passer. Le coma va durer des jours, des semaines, des mois. Mais un jour, elle se réveille.
Ouais. Et pourquoi ?
Elle se réveille, on n'a jamais su pourquoi elle s'était réveillée, mais donc elle peut même rentrer chez elle. Et le médecin arrive quand même en demandant au mari, écoutez, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi elle s'est réveillée, mais c'est vrai, j'ai quand même vu que vous restiez avec elle sans arrêt, qu'est-ce que vous lui disiez ? Et il lui raconte un peu sa vie, comment avant la Première Guerre mondiale. Et il disait justement que à la guerre, il recevait une lettre avec deux phrases, et ce sont ces deux phrases qu'il lui a dit pendant tout ce coma. Et ces deux phrases étaient « Je t'aime, je t'attends ».
Et ben voilà, la suite, vous la découvrirez en allant faire cette balade, pourquoi pas, Paris côté cœur. C'est sur cultival.fr. Vous rencontrerez Elisabeth et toutes ces belles histoires d'amour de ce quartier du Marais. C'est une visite qui a lieu une fois par mois. Il faut s'inscrire sur cultival.fr. Il y en a une samedi à 17h30. C'est 13€ par personne. Merci beaucoup, Elisabeth Galimard.
Je vous en prie, avec plaisir.
Pour ces belles histoires et à bientôt.
France Bleu Paris.
France Bleu.